France Culture.
Donc le site du village, il est là. Ici, c'est le haut du village. Et là-bas, vous voyez une petite ligne blanche, enfin blanche-grise, on va y aller. C'était le tracé de l'ancienne route nationale à l'époque. Quant au reste, on ne devine plus rien, sinon, comme on va le voir, sur l'emplacement de la maison de mes grands-parents, un escalier en béton avec quelques marches qui n'ont pas été détruites au moment de la démolition totale du village.
Dans quelques jours, quelques semaines au plus, ces images appartiendront au passé. Les villages, les maisons, les routes et les chemins que vous pouvez apercevoir ne sont plus inscrits sur les cartes. Nous sommes dans la vallée de l'Ubaye.
Les dessous du lac de Serpenson. Épisode 1, quand le passé refait surface. Un documentaire de Marion Paquet, réalisé par Cécile Lafont.
Une dernière fois pour tous ceux qui sont partis, pour tous ceux qui ont quitté leur foyer, ces images. La mise en eau initiale du barrage aura lieu dans la matinée du lundi 16 novembre. Cette amorce de la formation du futur réservoir, dont la capacité du plan d'eau de réserve pourra comporter 1 milliard 200 millions de mètres cubes, exigera plusieurs mois avant d'atteindre la côte 708, but de cette première opération.
Archivina, Radio-Télévision Française, novembre 1959.
Alors, nous sommes ici sur le site de l'ancien village du Bail, qui a été complètement englouti par la retenue du lac de Serpenson. Et on voit au-dessous de nous les quelques vestiges qui restent. Mes grands-parents sont partis, moi j'avais 9 ans. Donc jusqu'à 9 ans, j'ai passé ici de très nombreuses vacances. Donc le village, je le connais bien, en effet.
Roger Mas est l'un des derniers témoins de cette histoire.
Je suis né en 1944 et je suis venu à l'école pendant un an ou deux dans ce village du Bail.
À 81 ans, il incarne la mémoire d'habitants qui ont dû tout quitter pour la construction d'un barrage et de sa retenue.
Le lac de Serpenson s'étend sur deux vallées, la vallée de la Durance et la vallée de l'Ubaye. Donc ici, on est sur l'Ubaye et on est pratiquement à l'amont de la retenue de Serpenson.
Le lac est suffisamment bas pour qu'on voit réapparaître les vestiges
du
passé.
Du passé, exactement. Là où nous sommes, lorsqu'on regarde effectivement le lac, là, c'est pas beau. C'est de la boue, puisque là, on est à l'amont de la retenue. Donc, on voit essentiellement de la vase, de la boue, et on devine la rivière là-bas. On la voit, mais il faut plus la deviner que la voir, en réalité.
Donc, on va descendre ?
Allez, on y va.
Chaque année, il faut attendre la fin de l'hiver et la baisse du niveau du lac pour voir apparaître ces morceaux du passé, éparpillés, comme prisonniers, enlisés dans le limon sombre qui tapisse les berges.
On s'enfonce un petit peu.
Non, ça va. Voilà, alors là, nous sommes sur le tracé de l'ancienne route Chorges-Barcelonnette. On aperçoit ici le pont qui permettait d'enjamber ce petit ruisseau qui est ici. Et il faut imaginer ici la rue principale du village du Bail. Il y a des commerces ici à ce niveau à peu près. Il y avait l'hôtel-restaurant. Il y avait, si mes souvenirs sont exacts, la poste qui était à côté. Et un peu plus loin, l'école et la mairie. Voilà. Et là, on l'imagine bien ici, le tracé. On revoit les trottoirs des magasins qui étaient ici. Et on va s'approcher du trottoir du magasin de mes grands-parents, donc qui était là un petit peu plus loin.
Ah oui, on voit des restes de dalles de
voilà,
construction.
Voilà, exactement, les restes de dalles. Ici, c'était, le salon de coiffure de M. Honoré. qui a été mon premier coiffeur, paraît-il. Moi, je ne m'en souviens pas. Et je pleurais comme une madeleine chaque fois que je m'asseyais sur son fauteuil pour être coiffé. Alors voilà. Nous sommes ici sur le trottoir donc du magasin et de l'atelier de mes grands-parents, puisque mon grand-père était le bourrelier et sellier de toute la vallée. Et il vendait tout l'harnachement nécessaire pour les chevaux de trait, les chevaux de selle aussi. Je me souviens l'avoir vu travailler, fabriquant des selles de chevaux, fabriquant des colliers. Et ma grand-mère tenait le magasin à côté. C'était une véritable caverne d'Ali Baba. Il y avait de tout ce qui était nécessaire pour le cheval. Et également les voitures hippomobiles. Voilà, là on est vraiment à une autre époque. Parce que dans les années 50, dans la période antérieure au barrage, les tracteurs étaient très très rares dans la vallée de l'Ubaye. Donc l'essentiel des travaux s'effectuait avec des chevaux de trait. Il faut imaginer ici des vignes, des vergers, beaucoup de vergers. Il y avait des vergers de pommiers en particulier. Et au XVIIIe siècle, Victor Emmanuel II de Savoie se faisait livrer des pommes du bail parce qu'il disait que c'était les meilleures pommes qu'il avait jamais mangées. Voilà. Donc ça prouve bien qu'ici, dans ce village, on était bien.
Un village de montagne, à 800 mètres d'altitude, jadis abrité du vent et généreusement exposé au soleil des Alpes du Sud. Une époque sur laquelle l'écrivain Jean Giono a posé des mots. Dans L'eau vive, film réalisé par François Villiers, il écrit les dernières scènes de vie d'un monde qui disparaît.
Des Alpes à Avignon, la Durance ne dort jamais dans son lit. Elle est belle, mais ses colères dévorent des fortunes. Elle est aujourd'hui aux prises avec des gens qui parlent un langage d'apocalypse. Il n'est plus question de subir ses fantaisies, mais de la faire entrer en usine. Exiger d'elle non plus sa beauté, mais son travail. Tout le long de cette Durance vivent des familles humaines. Pour ces familles, l'entreprise pose et posera de nombreux problèmes. Où les uns ne voient que de la matière à turbiner, les autres se représentent la rivière, comme elle est dans les allégories, semblable à une jeune fille.
Regarde, l'oncle, je barre la Durance. Voilà, elle est barrée.
Et tu barres des nerfs. Allez, allez, essuie-toi. Mais c'est pas qu'on doit jamais se laver les pieds, surtout quand on a du chemin à faire. J'ai pas envie de te porter sur mon dos, moi.
La maison de mes grands-parents devait se trouver juste en face de la gare qui était ici. Et là, en prévision justement de la voie ferrée et de cette gare, des investisseurs avaient construit ici un hôtel, un grand hôtel-restaurant qui était là et qui en réalité n'a jamais servi. La commune d'Ubaye l'avait racheté dans les dernières années et avait fait ici, dans la salle de restaurant, une salle polyvalente. Donc je pense que le village d'Ubaye avait été vraiment à l'avant-garde puisqu'il disposait d'une salle des fêtes. Et pour un village qui culminait à 150 habitants, c'était déjà pas mal. Et c'est vrai que c'était un village qui disposait d'un climat d'abri. J'allais dire qu'il fait chaud ici. Mais c'est vrai que les hivers étaient très doux, étaient très sereins dans ce village d'Ubaye. Et donc les gens y étaient bien, n'avaient pas du tout envie de partir. Et c'est un village qui vivait un petit peu en autarcie, dans la mesure où il disposait quasiment de tous les commerces de proximité. Il y avait tout ici.
Au cœur des Alpes, dans un site sauvage et grandiose, où la Durance au cours des âges a littéralement scié sa route, Électricité de France a commencé au début de 1955 l'un des plus vastes travaux d'aménagement hydroélectrique de l'Europe contemporaine. Pour sa bataille contre le serpent d'eau vive, pour contenir la ruée de la Durance encore indomptée, l'homme a choisi cet étranglement de la vallée, près d'un bloc rocheux, que les géographes ont baptisé du nom désormais célèbre de Serre-Ponçon. C'est au tiers supérieur de la Durance, à proximité de Gap, à 200 km de la mer, que devait s'élever le plus grand barrage de terre d'Europe. Derrière ce verrou, un lac immense est ramifié comme un V de victoire, dont une des branches mesurerait 20 km et l'autre 9. Il couvrira une superficie de 2700 hectares et accumulera derrière sa masse 1 milliard 200 millions de mètres cubes d'eau.
Serre-Ponçon, de Jean Hubinet et Jacques Bianchi, Les Films du Soleil, 1960.
Les habitants du Bail, au départ, étaient tous sceptiques. Et d'autant plus sceptiques qu'au début, le projet ne devait pas engloutir le village du Bail. Ça devait s'arrêter un petit peu plus bas. La plupart des gens ne croyaient pas trop à la construction de ce barrage parce qu'ils avaient tous été échaudés avec l'échec du projet de la voie ferrée entre Chorges et Barcelonnette. Tous disaient, eh bien, ce sera comme la voie ferrée, ça ne se fera pas. Et puis surtout, tous ont dit, on ne quittera jamais Ubaï, on ne vendra jamais, ici on est bien. Donc les gens n'y croyaient pas et continuaient d'investir et d'arranger les maisons. Et là, c'est un escalier donc en béton armé. On aperçoit encore d'ailleurs la ferraille sur certains. Cet escalier qui permettait de descendre dans le jardin et que mon père avait fait réaliser quelques années avant de quitter le village.
Depuis 5 ans, ce qui n'était encore que l'audacieux schéma d'action d'une pensée créatrice se transforme en réalité puissante. La solitude alpestre a fait place à la bruyante arrivée des hommes et des mécaniques. La marche du temps a mis fin au bucolique royaume des bergers et des troupeaux errants. L'épopée s'est ouverte sur un carrousel de machines industrieuses qui ne connaît ni jour ni nuit et dont l'inlassable vacarme répète aux échos que la conquête a commencé.
Alors, nous sommes à la sortie de la guerre. Il fallait reconstruire la France. Il fallait de l'énergie. Le nucléaire n'existait pas encore, bien qu'il fût à l'étude, mais il n'était pas encore opérationnel. Donc il fallait de l'électricité en particulier. Et il y a deux moyens de produire de l'électricité, soit c'est de l'hydroélectricité, soit ce sont des centrales. Et à l'époque, c'était surtout des centrales au charbon. Donc tout ça a été présenté à la population comme de l'intérêt public. La France devait se reconstruire, la France avait besoin d'énergie, il fallait de l'électricité. Ici, on avait un potentiel extraordinaire, il fallait l'exploiter. Donc, à partir de là, l'intérêt public a prévalu sur l'intérêt privé.
Elle était urgente et indispensable, cette conquête. Et les anciens avaient raison qui mirent en proverbe le fléau de la Provence. En effet, vienne la mauvaise saison, son flot multiplié par 1000, gonflé de 10 torrents, gonflé de toute pluie, se rue vers la mer, noie tout, ravage tout, arrache les labours, les vergers, emporte au galop l'espoir du paysan et quelquefois sa vie. Nuit d'angoisse, jour de colère, la vallée de l'eau vive n'est plus qu'un torrent boueux où flottent les débris.
Au départ, la construction du barrage obéissait à 3 impératifs. C'était d'abord canaliser, domestiquer la Durance et l'Ubaï, qui étaient considérés comme de véritables torrents qui dévalisaient tout lors des crues. La deuxième raison, puisqu'il y avait ici beaucoup d'eau et qu'il n'y en avait pas en Provence, eh bien cette eau, il fallait l'amener en Provence. Donc ça, c'était la deuxième raison. Et la troisième, évidemment, la principale, c'était la production d'électricité.
Là, c'était l'ancienne Durance.
Ah oui, ça faisait bien de dégâts.
L'eau qui coule ?
Île de Rousse.
Ubaï n'est pas le seul village disparu.
Non, Île de Rousset.
Il y a eu Savine et le hameau, l'île de Rousset.
Alors bonjour à tous et bienvenue au Muséoscope du Lac. Dans cette salle, on a représenté une partie des villages qui ont été détruits lors de la construction du barrage de Serre-Ponçon.
Savine. La gare de Prunières, l'île de Rousset et Ubaï.
Sur les hauteurs du lac, une famille de hauts alpins a créé un musée. Films, maquettes, cinéma 4D et hologrammes plongent les visiteurs 60 ans en arrière.
Ah, l'heureux temps, l'heureuse rivière.
Alors, c'est mon père, en fait, Gérard Rubrun, qui a eu l'idée en 1994 de construire un musée qui relate l'histoire de la construction du barrage de Serre-Ponçon et des villages engloutis. Florence Hubrin, co-gérante du Muséoscope du Lac. Il ne travaillait pas du tout dans le tourisme à l'époque, c'était un entrepreneur et il constatait que beaucoup de personnes venaient regarder le barrage, poser des questions, pourquoi le barrage a cette forme. Il paraît qu'il y a des villages qui ont été engloutis. Et donc, il a eu l'idée de construire un musée qui explique toute l'histoire de la construction du barrage et les villages engloutis. En fait, il était très intéressé par l'histoire de ce lieu, parce que, étant enfant, déjà, il venait en voyage de fin d'année. Il venait regarder l'évolution des travaux du barrage de Serre-Ponçon. Il était né en 1943 et apparemment, dans les écoles du Champsaur, il venait en fin d'année voir le barrage de Serre-Ponçon. Ça l'avait beaucoup marqué à l'époque. Il se rappelait de beaucoup de bruit, de beaucoup de camions en fait, beaucoup de poussière, et ça l'avait vraiment marqué. Et voilà, donc ça faisait appel à un souvenir d'enfance. Ensuite, parce qu'il trouvait que c'était dommage que rien ne raconte l'histoire de ce lieu. C'est quand même une histoire atypique, avec donc des personnes qui ont été déplacées, 1500 personnes expropriées, la construction de ce barrage en terre. Quand on a commencé à questionner les témoins de l'époque, on s'aperçoit que il y avait une sorte de fierté de tous les gens qui avaient contribué à l'élaboration de ce barrage. Il y avait aussi beaucoup de personnes qui avaient été marquées par les expropriations. Donc il y avait beaucoup d'émotions pour parler de ces travaux.
Il y avait longtemps qu'on en parlait.
Il y avait longtemps qu'on en parlait. Vous n'y croyez pas, sans doute. Vous n'avez pas assisté à la disparition du village à la fin.
Ça aurait fait trop mal. On a vu un petit peu, on peut partir du vieux village, mais nous ne sommes pas allés quand on a démoli nos...
À l'époque, les personnes qui avaient vécu les travaux du barrage, donc ils ont été filmés en 1997 ou 1998, c'était des personnes qui étaient déjà très âgées et qui aujourd'hui ont disparu. Donc c'était une sorte de devoir de mémoire. On voulait vraiment enregistrer les personnes qui avaient vécu cette histoire. Il y a certaines personnes qu'on a essayé d'interviewer pour les films, à l'époque, qui ont refusé en fait, parce que pour elles, c'était encore trop douloureux de parler de cette histoire. Donc ça a été quand même un traumatisme.
Au début, les gens n'y croyaient pas et surtout n'avaient pas envie de partir. Et puis lorsque on s'est aperçu qu'on commençait à faire des sondages au niveau du Serre-Ponçon, là, ça a commencé à changer. Et les plus virulents pour ne pas partir ont été les premiers à négocier avec EDF pour vendre leurs biens. Donc il y a eu quelques ventes, et petit à petit, ça a fait boule de neige. Mes parents, mes grands-parents ont fait partie du premier tiers, je pense, de la population qui a vendu à EDF. En fait, pour une raison qui était toute simple, c'est que mes parents voulaient que je fasse des études longues. Donc il fallait aller au lycée. Moi, à mon tour, j'étais fils unique. Ma mère ne voulait pas me mettre en pension. Donc, je dirais que pour elle, l'arrivée de cette expropriation avait quand même du positif parce qu'elle allait pouvoir garder son fils et ne pas le mettre en pension. Ça voulait dire qu'on allait acheter une habitation dans une ville. Et ça a été Gap. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur les gens? Petit à petit, les gens ont vendu, tous les propriétaires s'en sont bien tirés financièrement. Je dirais les premiers qui ont vendu et les premiers qui ont acheté. Parce que très vite, le marché de l'immobilier a grimpé. Tous les agents immobiliers ont vu qu'il y avait donc le village du Bail, le village d'Île-de-Rousset, une partie de Prunières et puis surtout le village de Savines, qui allait chercher, bien entendu, des propriétés ou des maisons ou des appartements dans tout le secteur. Parce que beaucoup n'avaient pas tellement envie de partir loin. Et donc, le marché immobilier grimpant, et les derniers qui ont vendu n'y trouvaient plus leur compte. Et donc, à ce moment-là, il y a eu des négociations assez ardues avec EDF pour que EDF rachète à un prix supérieur les terres, les maisons, etc.
Dans un fracas de tonnerre, la cheminée et l'usine de Savines sont tombées en poussière hier à 16 heures. Savines, l'un des deux villages qui, avec Ubaye, sera bientôt recouvert par les eaux de la Durance.
Archivina, Radio-Télévision française, avril 1960.
Deuxième trimestre de l'année, celui de la fonte des neiges. Dans 3 mois, l'eau qui est à la côte 710 arrivera à la côte 760. Et à Serponçon, hier, de nombreuses personnalités de l'EDF, entourées messieurs Mignon et Berthier, préfets des Basses-Alpes et des Hautes-Alpes, venus assister à la mise en eau définitive du plus grand barrage en terre d'Europe. Tandis qu'un nouveau Savines se construit plus haut là-bas, un monde révolu disparaît dans ces régions et les espérances se tournent vers la prodigieuse énergie qui va naître des eaux de la Durance. Hier, 1er avril 1960, une page de l'histoire économique de la Provence vient d'être tournée.
On a sacrifié effectivement quelques centaines d'habitants sur l'autel du progrès, parce que c'est un drame tout de même. Hein. Parce que les gens du jour au lendemain ont tout perdu, je veux dire, matériellement. Ils ont perdu tous leurs souvenirs. Et mon grand-père, dont je parlais tout à l'heure, qui avait 80 ans, lui n'a pas résisté quand il s'est retrouvé à Gap, dans une maison où il n'avait rien à faire. Ben, il est mort quelques mois après, parce qu'il a refusé de vivre, tout simplement, en disant « Mais qu'est-ce que je fais ici? Moi, j'ai rien à faire, je m'ennuie, c'est pas mon pays, c'est pas mon village, je connais personne, qu'est-ce que je fais là ?» Et donc, il s'est laissé mourir, mais il n'a pas été le seul à refuser ce départ. Voilà. C'est un drame humain qui est terrible, c'est évident. Mais les gens l'ont accepté.
Paix de voûte de l'aménagement de la Durance, le barrage de Serponçon, gigantesque entassement de terre compactée, est achevé. En 4 ans, 2000 ouvriers ont amoncelé, entre les deux éperons montagneux qui dominent ici la vallée, 14 millions de mètres cubes. Au pied de ce qui est le plus grand barrage d'Europe, d'autres hommes ont creusé dans le roc une vaste cavité souterraine.
EDF a vraiment été obligé d'installer un petit peu une ville comme on le faisait dans des centres de vie quand un chantier s'ouvre à l'étranger, quoi. C'est un petit peu ça. Donc il y avait une énorme cantine pour les ouvriers, il y avait une cantine célèbre pour les ingénieurs.
Il y avait deux cités, une cité des célibataires et la cité des hommes mariés.
Chronique de Serponçon.
Les chaussives, c'était les célibataires, alors là c'était le
muséoscope du lac.
Énorme. Quand on arrivait à Espinasse, à la cité de chaussives à midi, on se trouvait avec, je ne sais pas, 500 ouvriers, je dirais, et copains en même temps.
Ça a permis à tous les jeunes de toutes les communes environnantes de travailler au barrage. Certains ont touché leur premier salaire. Donc tous, à ce moment-là, ont acheté soit leur première moto, soit leur première voiture. Ceux qui se destinaient à être exploités agricoles, bien souvent le premier tracteur. Donc il y a eu, au moment présent, ce bouleversement.
L'heure était arrivée où on allait fermer les deux dérivations provisoires et où l'eau de la Durance et de son affluent allait noyer la vallée et avec elle deux villages, Savines et Ubaye, sacrifiés au progrès.
Archivina, les actualités françaises, novembre 1959.
Si l'on a pieusement déplacé le cimetière d'Ubaye, on a été sans pitié pour les maisons.
Les villages ont été détruits parce qu'il y avait l'exemple de Tignes. À Tignes, on n'a pas démoli le village, on l'a laissé. Si bien qu'au printemps, lorsque le niveau du lac baisse, on revoit toutes les maisons. Ce qui est un crève-cœur pour tous les habitants. Donc EDF, à ce moment-là, a décidé qu'il fallait raser tous les villages existants. Sauf les églises. Les églises, on les a gardées jusqu'au dernier moment, mais il fallait bien les démolir. Et le lendemain de la démolition du clocher de Savines ou du Bail, je ne sais plus, en fait, de toute façon, c'était probablement au même moment, la une de tous les journaux locaux était le curé en soutane qui regardait exploser le clocher. Voilà, donc ça c'était le perron, entrer dans l'église. On imagine l'église qui est là, le clocher qui est derrière. Et puis le premier cimetière du bail, donc qui était à côté de son église. Et il y a une tombe, une stèle qui a été ressortie aussi récemment. Et tout ce que les habitants ont demandé, c'est que le cimetière soit transféré. Voilà. Donc là-bas, le cimetière devant lequel on est garé, c'est en réalité le troisième cimetière du bail, parce que le premier se trouvait derrière l'église, on va voir, il y a des traces de tombe encore. Le deuxième était là-bas, dont j'ai parlé, et là, celui-ci a été reconstruit donc au début des années 60 pour les gens qui n'ont pas voulu faire un transfert de corps là où ils allaient habiter désormais. Et certains aujourd'hui qui ont des concessions ici se font enterrer ici au cimetière. Voilà. Donc ça continue, le cimetière continue de vivre. Il faudra, je pense, quelques générations pour que tout soit véritablement oublié. Et les gens posent des questions en disant, mais pourquoi il y a des pierres, pourquoi il y a des murets, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a une fontaine, pourquoi il y a des marches d'escalier, pourquoi il y a des tombes, ils ne savent pas qu'il y a un village. Et donc moi, lorsque j'étais élu, je me suis battu pour que quelque chose soit fait à Ubaye. Donc finalement, après des années et des années de discussions, de recherches aussi, en se posant la question, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour évoquer justement ce passé? Et donc un projet, une étude a été lancée, donc il y aura ici, d'ici un an ou deux, l'évocation virtuelle du village du Bail.
Là, il faut qu'on traverse le petit affluent.
Mais là où on se trouve en ce moment, les gens se baignent.
L'été.
Voilà, là, il faut imaginer les gens qui se baignent, là, ils sont là. Voilà. Et ils pique-niquent sur la pelouse que l'on vient de quitter. Voilà, il faut qu'il y ait aujourd'hui un gros travail de mémoire qui soit fait pour les générations à venir. Voilà, pas seulement pour notre descendance, mais pour tous les touristes qui viennent dans le secteur.
C'était Les Dessous du lac de Serre-Ponçon, quand le passé refait surface. Merci à Roger Mas, au Muséoscope du Lac et à la Cinémathèque d'images de montagne de Gap. Prise de son, Fabien Gosset et Benjamin Vignal. Mixage, Philippe Thibault. Chargé de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Une histoire particulière de Marion Paquet, réalisée par Cécile Lafont. À venir, Les Dessous du lac de Serre-Ponçon, épisode 2, de l'eau vive aux eaux troubles.